Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado L'Agenda. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel. Et oui, pour une fois, c'est moi, Jonathan, qui fait l'intro. C'est relativement rare. On a Natacha Tremblay qui va arriver probablement au courant du balado. Évidemment, on vous tiendra au courant lorsqu'elle sera présente. Mais aujourd'hui, on reçoit un invité qui me tenait à cœur, en fait, de discuter avec lui aujourd'hui. Ex-officier des Forces armées canadiennes, professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais et évidemment personnalité politique de la région portant le même nom, j'ai nommé Dave Blackburn. Bonjour Dave, comment vas-tu?
Bonjour Jonathan, bonjour Samuel, ça va très bien. On se prend là à la dernière journée de avant mes vacances, je commence les vacances demain, donc... C'est positif. On a eu M. Trudeau après-midi. On va peut-être en parler un petit peu aussi. Donc ça va me faire du bien d'aller décompresser tout ça. Mais je vais bien. C'est ça. Puis je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
Ben écoute, d'autant plus que, bon, nous, du moins, on se connaît des dernières élections. On a eu la chance de travailler ensemble sur le terrain. Pas dans les mêmes parties, évidemment, mais quand même, sur plusieurs sujets, on se touchait. On pouvait en conclure cela. Et aujourd'hui, en fait, je tenais à t'inviter pour parler, évidemment, bon, de la fameuse course à la chefferie du Parti conservateur. Veux-tu nous en dire plus sur ton rôle dans cette course?
Oui, ben moi, mon rôle, en fait, je m'occupe pour l'Outaouais là, de la campagne du candidat Peter McKay. Donc, en fait, j'ai été principal. Ben, la course était spéciale, hein. Faut mettre ça en perspective. Là, avec la pandémie de la COVID, on avait commencé à travailler sur le terrain là, dès le mois de janvier. Et puis après ça, ben là, il y a eu une pause dans la course. Après ça, ça s'est continué beaucoup plus vers les médias sociaux, Zoom, des séances par Zoom qu'on faisait avec les membres. Puis ensuite de ça, ben là, on a repris un petit peu le terrain, mais avec la distanciation, donc c'était pas nécessairement simple non plus. Mais c'est ça, c'est une course qui achève. Là. Il reste en fait 3 semaines. Les bulletins doivent être rendus pour le 21 août, 17h au bureau du Parti Ottawa. Et puis après ça, là, probablement des 24-48 heures suivantes, on va savoir qui va gagner la course. Donc, ça a été beaucoup de travail. C'est une course qui est chaque circonscription doit être idéalement remporté par un candidat pour avoir des points. Donc, de là l'importance. Nous, dans l'Outaouais, on a 4 circonscriptions. Donc, on a travaillé fort pour que Peter soit capable de gagner les points qui vont avec ces 4 circonscriptions-là.
C'est quand même, ça a quand même le mérite d'être clair. Puis, beaucoup de travail, j'imagine. D'ailleurs, on va avoir une question plus directe sur le sujet. Mais la première réelle question que j'aimerais te lancer, de toute façon, juste pour nos auditeurs, j'ai évidemment envoyé quelques questions à Dave pour qu'il puisse, bon, quand même avoir le temps de réfléchir un peu à ce qu'il pourrait nous expliquer. Et en fait, bon, on l'a bien vu, ben, de toute façon, c'est pas nouveau, là, ça date. On le sait, le Parti conservateur du Canada est quand même un parti qui prône une grande décentralisation au niveau des assemblées législatives des provinces. Moi, évidemment, je te demanderais que manque l'Assemblée nationale du Québec afin d'être, bon, je disais 100% efficace auprès de sa population, mais on comprend ce que je veux dire par là, mais également auprès d'Ottawa.
Moi, je pense que dans plusieurs dossiers, c'est une excellente chose que le Québec, on va parler du Québec parce qu'on vient d'ici, là, que le Québec soit en mesure de gérer ces dossiers-là, qu'il ait ces compétences-là dans sa cour. C'est une très bonne chose. Je pense que même, il y aurait même une ouverture à discuter. Ça, évidemment, ça serait au sein de tous les premiers ministres et le premier ministre du Canada, d'autres dossiers dans le futur qui pourraient être transférés justement aux provinces. Donc ça, en effet, là, vous le dites en entrée de jeu, moi je suis pour ça, là, une décentralisation. Je pense que les provinces sont pleinement compétentes pour gérer une majorité de dossiers. Toutefois, on le voit là, entre autres, lui qui me vient en tête en premier lieu, c'est le dossier de la santé, qui est principalement un dossier de compétences provinciales, mais on voit avec toutes les difficultés de transfert de transferts financiers aux provinces, que là, aujourd'hui, on en arrive, qu'on a de la difficulté à combler l'ensemble des coûts du système de santé. Puis de là, les premiers ministres provinciaux demandent d'avoir plus d'argent d'Ottawa pour être capable de transférer. C'est un dossier qui est excessivement important, celui-là, parce que on sait que les coûts dans ce domaine-là, à travers le temps, avec les années qui vont venir, vont toujours augmenter. La technologie va toujours coûter plus cher, puis on est une province où on a une population qui est vieillissante. On a une masse de gens de plus de 65 ans et plus. Donc, évidemment qu'il y a des services de santé liés avec ça. Donc, moi, je pense que l'essentiel, c'est justement d'être capable d'avoir des très bonnes relations fédérales-provinciales pour être capable de régler des dossiers comme ça.
Je me permettrais une question, si ça vous dérange pas. Est-ce que, dans votre vision, est-ce que c'est mieux pour un gouvernement conservateur, par exemple, de donner plus de transferts fédéraux aux provinces selon ce qu'elles demandent, ou est-ce que ce serait mieux de réduire le taux d'imposition au Canada pour permettre aux provinces d'aller rechercher ces points d'impôt-là pour financer le système de santé à même leur, leur capacité fiscale?
Ça, c'est personnel. C'est pas nécessairement le Parti conservateur qui dit ça, mais moi, je vois même au-delà de ça, parce que le système de santé, puis ça, c'est mon domaine aussi à l'université. Là, moi, mon doctorat est en sociologie de la santé. Notre système, à un moment donné, là, il est déjà à plus de 50% du budget de la province. Il va falloir commencer à réfléchir, puis réfléchir sérieusement sur des modèles autre qu'un modèle là, comme on a actuellement, là, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus la capacité de le payer. Là. Même s'il y a des points d'impôt qui seraient diminués au fédéral, qui seraient envoyés aux provinces pour ça, moi, je vois plus qu'on doit considérer et regarder des modèles comme, par exemple, l'Allemagne, qui est un modèle où il y a possibilité d'avoir des assurances privées. Puis c'est, je parle pas nécessairement là, d'un système comme on appelait à l'époque là, à deux vitesses. Là, c'est différent. Là. Des modèles comme il y a des pays nordiques aussi, où ce que justement on permet une certaine une partie d'entreprise privée qui vient gérer certains secteurs où ce que le public a de la difficulté à payer. Là. Donc ça c'est un exemple. En réfléchissant à la question, il y a un autre aspect moi qui me vient en tête là, qui a été que c'est un transfert fédéral provincial qui a été fait, mais de mon point de vue, qui a pas été extrêmement bien fait. Puis c'est aussi dans le domaine de la santé. Vous connaissez probablement l'hôpital des vétérans de Saint-Anne-de-Bellevue, qui est un hôpital qui était géré par le ministère des Anciens Combattants, mais qui a été vendu au gouvernement du Québec pour la somme là, symbolique de 1$. Et depuis ce temps-là, cet hôpital-là est géré par le provincial. Et il y a encore là, peut-être 2 ou 3 étages qui sont consacrés uniquement pour les vétérans. Mais ça a créé beaucoup de problématiques, tout particulièrement en lien avec la dispensation des services pour les vétérans, puis des personnes âgées aussi qui habitaient là, qui ont pas nécessairement de lien avec les vétérans, mais c'est le genre d'exemple où ce que oui, c'est une bonne chose, je pense, de le transférer, mais où ce que l'arrimage a causé certaines problématiques, puis ce qui a amené aussi un groupe de résidents de Saint-Anne-de-Bellevue à poursuivre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, puis aussi, je pense, deux autres, le CI3S de l'ouest de l'île. Donc, moi, je pense que oui, c'est une bonne chose. Je pense que les provinces sont compétentes dans beaucoup de domaines. Il y a certains domaines, par exemple, je suis pleinement convaincu que ça doit rester de niveau fédéral. Je pense, entre autres, justement, aux Forces armées canadiennes, autant à l'effectif que l'équipement. C'est déjà tellement complexe. On le voit là, hein, qu'à essayer de changer les avions de combat, les chasseurs, ça fait quoi, 15 ans qu'on est là-dessus, puis on est encore au point de pas savoir quoi qui va remplacer les CF-18. Là. Donc, les affaires aussi en lien avec les vétérans, ça, je pense que ça va dans la même veine. Puis le service correctionnel aussi du Canada, les pénitenciers, je pense que ça, c'est... je verrais pas ça, comment ça pourrait être transféré aux provinces. Puis même s'il y aurait des transferts de fonds, j'aurais des craintes importantes que ça finisse comme le réseau de la santé. Il n'y aurait pas assez de transferts qui seraient faits. Puis...
Ça, c'est quand même intéressant ce que tu viens de dire. Ben, je pense on s'en avait déjà parlé jadis. Moi, mes parents, bon, du moins ma mère, était agente correctionnelle justement à la prison de Hull, puis elle m'a fait énormément de critiques par rapport à ça, justement. Mais Par contre, là, si je ne m'abuse, la prison de Hull, par contre, n'est pas, c'est une prison provinciale et non pas fédérale. Est-ce que ça change quelque chose au final au niveau des investissements faits comme tels ou je m'égare? Hein?
Non, ben, en réalité, là, c'est deux systèmes parallèles. Hein? Le provincial, c'est des délinquants qui ont 2 ans moins un jour. Donc, les fédéraux, c'est des peines plus lourdes. Donc, généralement, ça peut aller des gens qui ont commis des meurtres. Là, donc, sentence à vie. Le problème de fond, c'est le financement. Ça se compare pas, là, le financement en termes de autant de ressources humaines, mais aussi ressources pour les délinquants, pour se réhabiliter. Au Québec, là, c'est plus difficile. Là. Être dans une prison provinciale pour un délinquant, il y a moins de perspectives de réhabilitation que dans un pénitencier fédéral où ce que justement plus de ressources, plus de moyens, plus d'équipement aussi. Oui. Donc de là, moi, je verrais pas qu'on transférait, par exemple, les délinquants qui sont sentencés de plus de 2 ans. Que ça deviendrait des pénitenciers provinciaux, j'aurais des craintes que l'argent ne suivrait pas à la hauteur des besoins.
Là. Est-ce qu'il y a vraiment eu une demande de la part des provinces que ça se fasse, ça? J'ai jamais entendu parler de ça avant.
Pas de demande en soi, là, mais c'est plus, moi, je le réfléchissais plus en termes de certains domaines ou certains dossiers qui seraient pas nécessairement, entièrement décentralisables vers les provinces.
La constitution de 67 est quand même, pas celle de 82, mais celle de 67 était quand même bien pensée pour son époque. Là. Il y a des choses ici et là que je suis en désaccord, le pouvoir résiduaire, mais en somme toute, je pense qu'ils avaient bien divisé. Qu'est-ce
ça,
que
c'est la charte de Victoria, ça, hein?
L'acte d'Amérique du Nord britannique 1867, c'est avec Johnny MacDonald et tout ça. C'est celui qu'on a signé quand on était les 4 provinces fondatrices. À part le pouvoir résiduaire, je trouve que les pères fondateurs avaient quand même bien su mettre les lignes où le fédéral devait prendre le pouvoir et où le provincial devait prendre le pouvoir. Et avaient mis... c'est sûr que là, par contre, c'est une question de perspective. J'ai l'impression que le fédéral s'est approprié des pouvoirs qu'il n'aurait pas dû. Là, je trouve que notamment dans les infrastructures, je me pose la question... jusqu'où on va aller là, parce que là on est rendu que le fédéral finance des projets routiers mineurs dans des municipalités alors que ça tant qu'à moi ça devrait aller aux provinces là, le transport.
Ouais.
Mais après on plaide le pouvoir fédéral de dépenser. Moi je suis pas très à l'aise avec ça personnellement.
Ça fait des belles annonces aussi pour le député fédéral qui est dans son petit village qui vient dire on a donné 5 millions pour la route du coin puis
effectivement.
Ouais. Mais en réalité, là, le provincial est très très en mesure de gérer justement son réseau routier et savoir c'est où est-ce qu'il faut investir.
Ben justement, en parlant des fameuses provinces, je me permettrai la deuxième question, Dave. Comment parler de la communication du parti au niveau canadien sans entre l'Est et l'Ouest, sans s'entremêler les pieds dans le pliage du double discours? Est-ce qu'il y a une communication à l'interne du parti que tu prends plus qu'une autre pour éviter ce piège-là?
Ben moi, là-dessus, là, je vais vous dire comment que je vois ça personnellement, puis j'ai tenté de l'amener aussi, puis dans la dernière campagne, entre autres, comme élément là, à considérer. Moi, je vois ça que le discours devrait être adapté en fonction là des réalités régionales. Puis régional, je veux dire, prenons l'Ouest, prenons l'Ontario, le Québec, l'Atlantique. Là. Vraiment, tu sais, par les enjeux primordiaux dans chacun des coins, plutôt qu'avoir vraiment une campagne ou encore un discours qu'on essaye de one fit fit all, excusez-moi l'expression en anglais, là, mais une seule et unique façon, un seul et unique discours pour l'ensemble du Canada. Parce que le Canada, c'est beaucoup trop grand. Là. On peut pas, tu sais... À la dernière campagne électorale, on parlait de couper, d'enlever, d'éliminer la taxe sur le carbone. Là. Mais tu sais, au Québec, ça avait plus ou moins de portée pour nous autres au Québec. Cette taxe-là est déjà gérée par le provincial, qui ont déjà instauré leur propre système. Donc, même si M. Scheer en parle pendant sa campagne au fédéral, puis que ça devient un clip aux nouvelles de 10 heures, pour le Québec, c'est pas de quoi qui touche vraiment les gens. Là. Donc moi, je vois beaucoup plus ça comme une approche de considérer les problématiques ou les enjeux primordiaux dans chacun des coins au Québec, par exemple, regarder ça serait quoi pour la selon la population, ça serait quoi les enjeux prioritaires. Dans la dernière campagne, on avait entre autres là éliminé c'était d'éliminer un des rapports, avoir le rapport d'impôt unique au Québec. Mm-hmm. Ça avait été une des idées dans la grande tournée québécoise qui avait été faite en pré-campagne qui ressortait. Ça amenait d'autres enjeux aussi parce qu'on a des fonctionnaires publics à Jonquière qui travaillent justement là-dessus, là, au centre de données fiscales. Mais moi, je vois beaucoup plus une approche comme ça, y aller par région, les enjeux par région, puis un peu avoir un plan de communication local, là, développé en fonction de la région plutôt que qu'être en contradiction avec deux discours. Là. Tu sais, que...
On délaisse vraiment l'idée de la seule et unique ligne directrice dans ce cas-ci.
Ouais. Moi, c'est ce que je prône. Puis parce que dans certains cas, c'est sûr et certain, on parle de l'Alberta. T'sais, si on parle des enjeux de l'Alberta, il y a des enjeux économiques très importants. Il y a des enjeux liés à l'industrie pétrolière qui était là avant même la pandémie, là, qui était très important. Ça n'a pas la même résonance pour les gens de l'Ontario ou du Québec que les gens de l'Ouest qui vivent de ça, non, que c'est leur... C'est puis, à un moment donné, même, ça peut amener de la confusion ou de créer même, justement, des certaines rivalités entre certains coins. Donc, moi, je pense plus que la prochaine campagne, le prochain chef devrait vraiment regarder ça de façon régionale, de se concentrer un peu... Moi, dans la dernière campagne dans le Pontiac, c'est ce que j'avais divisé notre circonscription qui est immense, comme tu le sais, aussi grand que la Belgique. J'avais divisé ça, moi, en 5 zones. La zone urbaine, pure urbaine, qui était Gatineau, la zone tampon qui était justement Kentley, Val-des-Monts, Chelsea, Locksville de l'autre côté. Après ça, Pontiac anglophone, la vallée de la Gatineau, puis nos deux communautés autochtones. Donc, moi, c'était l'approche que j'avais eue, puis c'était vraiment regarder les enjeux dans chacun de ces 5 zones-là. Puis, quand j'allais là, ben, tu sais, je parlerais pas de l'Internet à haute vitesse quand je suis dans la vallée de la Gatineau, mm-hmm. Que des problèmes de la vallée de la Gatineau quand je suis dans Gatineau, là. Tu sais, c'est pas du tout la même réalité. Donc, moi, une vision comme ça, je pense, ça touche les gens. Les gens se sentent beaucoup plus concernés par la démarche politique d'essayer de régler les enjeux ou les problèmes que y aller avec une seule ligne d'essayer de passer ça descendre ouest.
C'est quand même une perspective intéressante parce que c'est vrai quand vous dites ça, le Canada, c'est effectivement, on pourrait parler qu'il y a envie peut-être genre 3 nations peut-être au Canada, dans le sens la communauté anglophone, francophone et autochtone, mais même que si on regarde ça plus loin, on pourrait presque diviser le Canada avec la communauté de l'Ouest, la communauté britannique qui ont vraiment, tu sais, une séparation vraiment claire. C'est vrai que ça devient de plus en plus impossible d'avoir un message avec une unité nationale. Et donc là, on est obligé de proposer un peu excusez-moi l'expression, un menu à la carte là, pour les régions. Je trouvais que ça devient un juste milieu à trouver entre proposer des politiques adaptées aux régions, mais tout de même avoir une ligne directrice pour le pays au complet. Et ça doit être un beau défi quand même quand on voit l'Alberta qui est vraiment gros dans le pétrole et tout ça, les énergies fossiles, et versus, mettons, la Colombie-Britannique qui veut vraiment rien savoir du pipeline versus le Québec qui ne veut pas de pipeline et qui est en débat sur GNL, on se retrouve avec... c'est presque insoluble, en fait. Là.
Ben c'est ça, c'est des réalités tellement différentes d'un coin à l'autre que ça devient assez... Le pipeline, là, c'est un bon point que vous amenez là. Là. Essayer de rentrer ça de force dans la gorge des populations, ça marchera pas, ça. Marche pas, ça. Bon, on comprend, là, au Québec, on les comprend, les réalités de l'Alberta, là. On les vit pas, mais on peut les comprendre économiquement. Les pertes d'emploi, le crash, actuellement, c'est ça, c'est le crash presque complet de cette industrie-là.
Si ça nous arrivait à nous, on serait outrés, là. C'est certain, là. On comprend la frustration. Le moindrement qu'on se met à leur place, c'est des personnes qui veulent nourrir leur famille, là, à la fin de la journée.
C'est en plein ça. Mais je pense que de là, la... Tu sais, c'est beaucoup mieux une approche négociatrice qu'une approche, tu sais, d'y aller avec un discours puis tenter de passer ça partout. T'sais, si on n'en veut pas de pipeline, ben ça va être à regarder d'autres options. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Là.
Non, c'est ouais. Clair. Ben, justement, la prochaine question, je trouve que c'est ironique, mais elle rentre quand même bien en, par rapport à ce qu'on vient de dire. Les fameuses zones urbaines du Québec, tu viens à tout juste à l'instant de le mentionner, Dave. On prend la circonscription de Pontiac, on réalise assez rapidement que la zone urbaine fait tâche par rapport, ou plus ou moins tâche par rapport au reste de la circonscription. Ces ouais. fameuses zones demeureront-elles plutôt des barrières à l'avènement du PCC en région?
Puis surtout ici à Gatineau, juste en passant, c'est cette zone urbaine-là qui nous a coulé toutes les deux.
Oui, effectivement.
faut oui. le dire comme ça.
Oui, c'est un fait.
Ben, j'ai pris le temps de réfléchir à celle-là. Je l'ai trouvée excellente, cette question-là. Puis je l'ai regardé aussi sur la scène là, du Québec au complet. Hein. Quand on regarde juste Montréal, Montérégie, la Rive-Sud, c'est quoi là? C'est 18 circonscriptions à Montréal, puis c'est 14 en Montérégie, là, sur 75 au Québec.
Quand même.
Là. Fait que c'est sûr que on se fera pas de cachette. Il faut être franc là, dans la vie. Puis il n'y a pas eu de gain conservateur là depuis Brian Mulroney. Là. Donc, puis Brian Mulroney, il est plus là. Puis il en reviendra pas non plus. Puis c'est ça. On va avoir un nouveau chef prochainement. J'espère qu'il pourra être capable de monter ça comme Brian Mulroney, mais faut pas perdre de
c'est
vue.
C'est lui mettre beaucoup de pression, hein, parce que ben, Brian Mulroney, c'est un poids lourd dans l'histoire canadienne.
Poids lourd, puis qu'il y a le record hein, au Québec de vote de conservateur là, d'une élection en 88 de mémoire, c'est 63 sur 75 comtés. Là. Donc c'est moi, ces zones-là, t'sais, je veux pas être pessimiste parce que c'est pas dans ma nature, mais je suis réaliste aussi en même temps, puis je sais compter. T'sais, quand je regarde des boîtes de scrutin, je suis capable de compter que si t'es même pas proche de 10%, ben oublie ça, là. Tu iras pas chercher ça, à moins qu'il y ait un cataclysme incroyable qui générerait quelque chose, là, ou qu'il y ait une vague comme 2011 avec Jack Layton. Mais ça arrive pas tout le temps, là. Ça arrive rarement même. Donc, moi, je pense que l'approche, c'est vraiment de regarder pour le Parti conservateur où est-ce que c'est possible de faire des gains et mettre un accent sur ces coins-là. Tu sais, on est très fort dans la zone de la région de Québec.
C'est ça, c'est votre seule zone urbaine où vous avez vraiment une certaine racine de prix, là.
Ouais.
Même que la dernière élection, j'avais été surpris. Vous aviez
du deux comtés.
C'est ça. Vous avez. Je m'attendais à plus fort. Surtout à Louis Hébert, où ce que je savais, vous alliez pas gagner. Mais je pensais pas que vous alliez finir aussi loin que ça. Là. Vous avez quand même fini loin troisième.
Trois-Rivières, Yves-Lévesque. Yves-Lévesque était maire pendant 20 ans de temps. Il devait pas perdre ça, lui-là. Là. Il a fini troisième. Donc.
Même en Abitibi, Mario Provencher. Ouais. Maire de Rouyn-Noranda pendant des années, fini 3 ou 4e aussi.
Absolument.
Dans le temps, Jean-Maurice Matt, perdu contre Roméo Saganache deux fois plutôt qu'une. De peu, par contre, là, Jean-Maurice Matt, c'était tout le temps par la peau des dents, mais candidat de qualité. Et pourtant, et c'est ce que je trouve dommage, parce que vous avez souvent des candidats locaux incroyables. Jean-Maurice Matt, là, c'est un. Tu le connais pas, j'entends, mais c'est le maire de Center. C'est un homme avec un bon charisme quand même, mais une tête sur les épaules. Et. Pourtant, ces gens-là, on dirait qu'à cause que le Québec n'est pas capable d'assumer son petit côté conservateur, son petit côté nationaliste, on a peur de voter, comme d'assumer que les conservateurs, sais pas, il y a comme une espèce de.
Il y a un blocage.
Il y a un blocage, puis j'en parlais avec Natacha avant, puis j'espère qu'elle va venir, qu'on puisse parler de ça. Il y a comme pas le prestige au Québec, parti conservateur, alors que dans d'autres provinces, conservateur, c'est de père en fils, puis c'est une forme de prestige un peu d'être ce parti-là.
Ben, moi, je pense que ça va, puis on l'a vu dans la dernière élection. Puis moi je suis pas dans la gang là, qui était dans le push contre M. Scheer. Moi, je suis pas mon genre. Je suis un ancien officier des Forces canadiennes, puis je vais à la guerre avec les gens qui sont là, là. Si lui était élu, ben c'est lui le chef. Puis... Donc, moi, je parle pas mal contre M. Scheer. Sauf que, encore une fois, je suis réaliste. Puis M. Scheer, malheureusement, ça n'a pas connecté avec le Québec. Ça n'a pas connecté comme il aurait fallu que ça connecte pendant la dernière campagne électorale. Pour plusieurs raisons. Les enjeux sociaux, qui en est un, mais il y a d'autres raisons aussi en arrière de ça, qui a pas connecté. Puis moi, je pense que c'est vraiment ça. L'équipe, là, ce que tu viens de dire, Samuel, je l'ai. Notre équipe, nous autres, était presque toute prête au mois d'avril avant l'élection. On était, je pense, à 65 sur 75 candidats trouvés. Puis j'ai pris le temps, moi, de regarder les CV de gens qu'on avait. C'est vrai que c'est du monde, là, des spécialistes dans certains domaines, des gens qui sont très connus localement. On avait Angelo Exposito, ancien joueur de hockey qui est connu dans le milieu sportif, qui s'implique auprès des jeunes. On avait une méchante équipe, là. On avait une équipe pour aller à la guerre puis sortir de là avec plus que 11 députés.
Vous auriez eu une des meilleures députations, selon moi, si vous aviez été élu.
Ben, depuis les années Mulroney, aucun doute. On aurait eu une équipe là, incroyable, puis on s'attendait à aller en chercher plus que ça. Là. T'sais, moi, j'ai été nominé ici à Pontiac presque un an et trois mois avant l'élection, puis c'était tout voulu, ça. Là. C'était voulu que je fasse une pré-campagne d'un an sur le terrain, faire tous les coins de la circonscription, rencontrer les gens, connaître les enjeux, connaître les problèmes, connaître leurs perspectives de solutions, développer un plan, mettre des échéanciers. Tout ça, c'était là, là. Fait que le travail était très fort, très bon, très structuré, prometteur. Mais malheureusement, ça a pas levé. Ça a pas du tout levé. Ben, ça a levé dans un seul coin de notre circonscription, qui est le Pontiac anglophone. Puis, ouais. Puis à monter du bloc aussi, qu'il faut pas perdre de vue là. Où ce que nous on pensait faire des gains, ben c'est pas nous autres qui les a fait au final les gains. C'est le bloc québécois.
Donc surtout puis, à Québec, la capitale nationale, je pense que c'est les deux sièges que vous avez perdus, c'est
ouais,
le bloc qui
les
a volés.
Les deux beaux parts. Ouais. Puis tu sais ça faut être réaliste de ça aussi là. La bataille est tout particulièrement des régions. Tu sais, on vient de parler de Montréal, Montérégie. Bon, les cartes sont pas mal jouées là, dans ces coins-là. Là. Nous autres, en tout cas, pour le conservateur, c'est pas mal joué. Vous avez probablement au bloc plus de perspectives de gagner ces coins-là. Mais le reste se joue vraiment... Là, puis encore, exact. Puis le reste se joue vraiment, là, ben c'est ça. Ça se joue en Outaouais, ça va jouer en Estrie, ça va jouer au Saguenay. Au Saguenay, on avait en tête d'aller chercher les toits, là.
Vous aviez des bons candidats au Saguenay.
On avait
Richard Martel.
Philippe Gagnon, Richard Martel, Jocelyn Fradette. Jocelyn Fradette qui est conseiller municipal à Alma depuis vitam aeternam. Donc, puis qui menait aussi en début de campagne. Il menait tous les sondages. Donc, tu sais, on se bat pas mal sur le même terrain, là. Tu sais, puis à la base, il y a beaucoup de valeurs.
Je veux juste me permettre une question. Ben, je me pose la question, puis là, vous pouvez me répondre non. Mais est-ce que le parti de Maxime Bernier, des fois, vous a fait mal dans certaines circonscriptions? T'sais, juste, il vous manquait 1 ou 2%, ben, c'est 1 ou 2%-là, c'est lui qui est allé le chercher, le petit Snow, puis s'il avait pas fait ça aurait peut-être aidé.
Je pense pas.
Il était trop marginal pour que ça
aille affecter. Trop marginal. On regarde dans Pontiac, là. Tu sais, moi, je finis deuxième. Toi, Jonathan, on a quoi? Peut-être 500 votes de différence.
Quelque chose comme ça, oui.
Bon. Puis, tu sais, Mario Bellec est allé chercher quoi? 700-800 votes. Puis, okay, tu sais, deuxième, mais à 19 000 votes de la première place.
Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, là.
Tu sais, ça marche pas, là. Puis ça, ce 19 000 votes-là, il va le chercher dans la partie urbaine.
Définitivement.
Il y a un découpage peut-être qui est à revoir.
Mais carrément, le découpage est pourri. Complètement cassé, c'est pourri peut-être.
Mais là, c'est-tu parce qu'on n'a pas assez de circonscriptions ou c'est faudrait qu'on augmente le nombre de sièges au Parlement?
Éventuellement, là, moi j'habite sur le plateau à Gatineau. J'habite directement sur la ligne, la circonscription. Pas compliqué, là. Quelqu'un qui vient faire un tour avec sa voiture ici, là, ça doit être un des pôles au Québec, de développement domiciliaire qui est le plus grand. Là. Des portes de condos, là, il y en a ici, là, ça pousse par centaines là, à chaque mois. Il se bâtit un nouveau 26 portes, un nouveau 12 portes. Donc, c'est sûr et certain. Puis la circonscription est déjà à 115 000 de population.
OK, c'est quand même une grosse circonscription.
Oui, ben, puis qui est au-delà de la moyenne de vote aussi, là. Je pense que c'était 62 000 votes qu'on a eu à la dernière élection. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'elle va être appelée à être redessinée. Puis moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'il va y avoir comme un deuxième Gatineau, là, parce que la partie urbaine va être capable d'avoir assez de gens pour probablement faire une circonscription. Puis la vallée de la Gatineau, le Pontiac, vont probablement finir là, avec Mont-Laurier puis le nord des Laurentides.
Ah ouais, pas faux ça. Pas faux, c'est un bon point.
Là, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un remaniement des comtés? Je pense que c'était 2000, sous l'ère Harper.
2012. Hein? Okay. Ouais. Pour ça que M. Cannon, quand il a gagné, lui, c'était l'ancienne carte. Là. Mm. Sur l'ancienne carte, on avait Buckingham, on avait Thurso.
Mm. Ah ouais, ouais, ouais.
Ange gardien, donc c'était Papineau beaucoup. Je suis pas certain si ça allait jusque-là, c'était une circonscription qui était beaucoup plus rurale, qui avait pas comme la dualité actuelle avec en fait, en urbain puis du très rural, là, tu sais. Rendu à l'île aux allumettes ou c'est plus la même histoire que ce qui se passe sur le plateau, là. Je vais vous dire tout de suite, là.
Ben, c'est sûr que c'est comme s'ils mettaient une circonscription parce que Mont-Laurier et Amos étaient dans le même, là. C'est parce qu'il y avait trois, tu sais. Parce que Jonathan m'avait compté la quantité de kilomètres qu'il avait fait pour couvrir Pontiac.
Ah ouais, non, mais
avec son petit budget en plus, là. J'étais comme, c'est ridicule, là.
J'ai mis 40 000 km sur ma voiture.
Ah, bon, ben voilà, c'est ça.
En pré-campagne, uniquement en pré-campagne.
En pré-campagne, mon...
Pré-campagne, puis aller ramasser les pancartes après.
Tabarnak. Oh, ouais,
hey, 40 000 kilos, là, j'ai mis mon char, puis ça fait 3 ans que je l'ai.
Non, mais tu sais, c'est vraiment, encore une fois, c'est un très bon point. Moi, j'en ai peut-être fait 10 000, ce qui est déjà très, très bon pour en sachant le budget que j'avais, justement. Là.
Ouais, c'est ça,
t'es passé. Mais là, 40 000 kilomètres, non, mais c'est... Non, mais, tu sais, je veux dire, Dave, de toute façon, tu sais, je veux dire, on est là pour parler, puis je veux dire, il y a pas de partisanerie, c'est, je veux dire, juste entre nous trois, on va se le dire, ben, franchement.
Personne qui écoute, de toute façon, M. Blackburn.
Non, mais on va se le dire, ben, franchement, là. Je veux dire, tu as fait une campagne qui à mes yeux aujourd'hui avec un recul méritait la victoire au bout du rouleau. Et bon, enfin bref, il est arrivé ce qui est arrivé, mais bon, au final je pense qu'il y avait quelque chose de très d'injuste dans les résultats. Moi, je me plains évidemment pas du résultat que j'ai eu, je pensais jamais faire autant, mais ah bon, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire là. C'est, il y avait quelque chose d'injuste et je trouvais ça dommage pour toi parce que je veux dire, on n'est pas aveugle, les autres candidats, on voyait bien le travail qu'on faisait tous mutuellement ou individuellement. Alors bon, enfin bref, ouais. C'est d'une certaine tristesse, mais on va y revenir un peu plus tard parce que je sais que la dernière question te tient à cœur, là, donc on va y revenir vers la fin. Et justement, la dernière élection, aussi bien d'en parler, qu'est-ce que tu as appris de la dernière élection concernant le potentiel conservateur dans les régions? C'est-à-dire, qu'as-tu vu que le PCC doit impérativement changer lors de la prochaine campagne électorale?
Ben, il y a définitivement la première chose que nous, quand on a fait la rétroaction là, ou la pensée après campagne, quand on a réfléchi sur les bons coups, les moins bons, puis les difficultés apparentes et évidentes, nous, ce qui nous a clairement coulé, là, c'est le 2 octobre, le débat en français. Mmh. Où ce que la fameuse question des enjeux sociaux est revenue sur la table, tout particulièrement au Québec. Au Québec, on va s'entendre. On est des conservateurs progressistes. Là. C'est ça qu'on est. Là. Et Mulroney, c'est ça qui était. Puis c'est ça que les gens du Québec, pourquoi qu'il a gagné 63 circonscriptions, 75, c'est parce que les gens s'identifiaient à ce que Brian Mulroney amenait comme valeur conservatrice, mais aussi cette progression-là vers l'avenir, vers un idéal. Là. C'est, donc, puis, évidemment, on en a parlé un petit peu tantôt, le Canada, c'est grand, les conservateurs de l'Ouest sont pas nécessairement des conservateurs comme les conservateurs du Québec. Mm-hmm. Puis nous, ce qui nous a fait mal, c'est le 2 octobre au débat, justement, sur les enjeux sociaux. Nous, au Québec, t'sais, la question pro-choix, pro-vie, c'est réglé, ça. C'est réglé au Québec. On n'a pas besoin de rouvrir le dossier là-dessus. Elle est réglée, cette question-là, pour nous. Mais le chef, lui, ben c'était pas clair, c'était ambigu un peu, puis évidemment, ça a causé des torts monumentaux, parce que là, après ça, c'est devenu même un sujet plus important que le blackface de Justin Trudeau. C'est ça qui est absolument terrible.
Oui, ouais, effectivement.
Puis, là, on est rendu à débattre, ouais, mais chef des conservateurs, lui, il est pro-vie, puis là, il va ramener ça. Ben, c'était pas ça du tout, là, son point. Mais les dommages étaient faits, puis les dommages étaient faits d'un coin où on était extrêmement fort, comme par exemple Lac-Saint-Jean, où ce que Jocelyn Fradette était en bonne position pour aller gagner ça. Donc, c'est sûr et certain que cette question-là, là, les enjeux sociaux, faut que ça soit clarifié. Il faut que ça soit clair. Là, moi, vous le savez, je suis avec Peter McKay, puis Peter, lui, ça a été très clair. Lui, il est pro-choix, puis la question, elle se finit là, puis c'est à la personne de prendre la décision par rapport à ça. Donc, là, elle va être éclairée depuis un bout de temps, parce qu'il l'a déjà dit pendant la... Mm-hmm. Il l'avait dit avant, puis il l'a dit pendant la campagne à la chefferie. Il va le dire encore en entrée de jeu à la prochaine campagne, ça fait que ça devrait pas être une épine au pied qu'on va traîner tout le long. Puis l'autre aspect, bon, ben, au Québec, moi, je pense que c'est essentiel qu'il y ait une connexion entre les Québécois puis le chef conservateur. Il y en a plusieurs qui, moi, ça me fait un peu sourire quand j'entends ça. Il y en a plusieurs qui disaient que Stephen Harper était froid, qu'il était pas nécessairement très, très accueillant pour le Québec ou puis son français, il y a de la misère, mais après coup, puis surtout en voyant les gaffes, les manques de jugement, les manques d'éthique, tous les problèmes qui sont actuellement dans le cours de Justin Trudeau, là aujourd'hui, ben, il se n'ennuie de Stephen Harper. Il y avait quelque chose que Stephen Harper amenait, tu sais, comme du moins comme sécurisant dans la fonction de premier ministre, tant sur le plan économique, des relations internationales. Donc, moi, je pense que ça va être essentiel aussi. On le sait, là, c'est le chef qui drive la... C'est le chef qui est la locomotive d'une campagne. Au Québec, le monde ne vote pas pour Dave Blackburn ou pour le candidat. Ils vont voter pour le chef, puis comment que le chef va avoir performé pendant la campagne. Ou encore, si jamais son libéral ou conservateur ou bloquiste depuis toujours. Donc, ouais. Moi, je pense que cette connexion-là est nécessaire. Connexion qui est franche, qui est claire, même s'il est pas parfaitement francophone ou français, mais qu'il soit capable de bien s'exprimer, d'exprimer ses idées, puis que ça soit clair, et aussi d'avoir une bonne équipe, encore une fois, autour de lui. Je pense que, tu sais,
parler... Ça prend un bon lieutenant québécois, là, par contre.
Un bon lieutenant, ça prend quelqu'un qui a une bonne drive, qui est capable de bien, tu sais... de bien l'idée, de bien mener les troupes aussi, de bien amener les membres à faire leur travail aussi dans leur comté. Absolument. Moi, je pense que le lieutenant québécois est un poste capital pour le prochain chef.
Est-ce qu'il y a M. McKay a déjà quelqu'un en tête advenant qu'il devient le prochain chef?
Je pourrais pas dire. Je pourrais non, pas dire. Je...
Les gens, on oublie souvent là, l'époque un peu, mais Denis Lebel, là, ouais. Champ lieutenant, ça là. Ouh, lieutenant plus plus. Oui. Parce que Denis Lebel, il en a fait des affaires. Puis, pour moi, Stephen Harper devait trouver qu'il était pratique en maudit parce que. Denis Lebel, justement, je pense que ça a manqué à Andrew Scheer pendant sa campagne d'avoir un lieutenant vraiment du calibre à M. Lebel.
M. Lebel ou M. Cannon? M. Cannon était lieutenant du Québec aussi.
Oui, c'est juste M. Lebel m'avait plus marqué dans le temps des négociations avec le pont Champlain puis tout ça.
Ouais, ouais.
Mais c'est certain que le Québec, je trouve. Moi, je trouve ça dommage, personnellement. C'est toujours ce qui me rend un petit peu fâché du Québec. C'est que je regarde ça, puis au Québec, on veut des choses comme la laïcité, on veut plus de pouvoir, on veut plein de choses comme ça. Voter pour le Bloc, à ce moment-là, ça fait du sens, mais là, c'est sûr que moi, je suis un peu biaisé de dire ça. Mais après, quand je vois qu'on vote pour le NPD ou qu'on vote pour le PLC, des partis qui sont moralisateurs sur nos positions sociales, qui veulent nous imposer qui nous rentrent nos compétences, qui disent on le voit avec Trudeau, là, je vous donne 14 milliards si vous suivez les critères que je vous donne en santé. C'est complètement pas comme ça que ça fonctionne.
C'est moralisateur.
C'est moralisateur, il veut contrôler, il se présente comme étant le détenteur de la vertu, puis après ça, il fait du capital politique avec ça. Moi, je trouve ça fatigant au bout. Mais parce qu'on dirait, depuis que vous avez lâché le mot progressiste conservateur, le mot conservateur au Québec a cette... C'est comme si c'était péjoratif.
Ben oui, ben exact.
Ben, exact.
Je pense que ça me fait mal que vous n'ayez pas de Parti conservateur du Québec crédible, sans vouloir offenser les personnes qui aiment le Parti conservateur du Québec. Monsieur Pouliot, on s'entend, c'est pas comme le Parti progressiste conservateur de l'Ontario, là. C'est pas, on parle pas du même niveau.
De l'Alberta, là.
Ou de l'Alberta, oui, avec Monsieur Kenney. Mais tu sais, je veux dire, il vous manque ça. On dirait que le progressiste conservateur, ça a fait mal. T'sais. Puis quand Lucien Bouchard est parti, ça a pas dû aider non plus. Mais moi, je comprends pas que le Québec, il s'assume pas puis qu'il regarde pas ça de façon pragmatique puis qu'il dise, OK, qu'est-ce que nous autres, on veut au Québec? On veut plus de pouvoir, on voudrait plus contrôler notre immigration, on veut pouvoir placer nos lois en laïcité. Qui nous propose quoi? Le Bloc, les conservateurs? Mais peux-tu bien me dire pourquoi après ça, est-ce qu'on vote pour Trudeau parce qu'il nous promet un peu plus d'argent? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends rien dedans, ça me fâche. Mais vous me direz qu'à la fin de la journée, le voteur moyen, il s'en fout un peu, il veut juste avoir plus d'argent dans ses poches à la fin du mois. Mais c'est des décisions comme ça qui me font me dire, est-ce qu'on a ce qu'on mérite à la fin de la journée? Je sais pas.
Ben, puis pour faire même du pouce là-dessus, moi comment que je vois ça là aussi, là, c'est que c'est rendu là. C'est pas lui qui a la meilleure idée, là. C'est pas lui qui propose la meilleure affaire, là. Parce qu'il y a bien du monde qui sont biaisés, puis il y a bien du monde qui ont pas. Nous, on aime ça, on en mange de ça, là. Tu sais, moi, j'en mange. J'ai écouté Trudeau aujourd'hui, Katie Telford, j'ai écouté les frères Kilberger. J'en mange de ça. Mais on n'est pas tous comme ça. Beaucoup de Québécois, beaucoup de Québécoises vont écouter le TVA Nouvelle ou ils vont écouter
le téléjournal,
Radio-Canada, puis ils vont prendre les petites brides d'informations qu'ils ont là, puis ils se bâtissent une idée à travers ça. Moi, ce que j'ai vu là, en dernière campagne, puis avant ça aussi, à l'époque où ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, c'est lui qui a la plus belle image. C'est lui qui vend le. C'est rendu du marketing. C'est lui qui va vendre son image, qui va bien passer, bien avant la bonne idée, la solution à un problème. Ça, il y a des petits érudits, là, des gens qui ont un intérêt passionné qui vont aller voir ça. Mais la grande majorité du monde, là, ce qu'ils veulent, là, c'est « Passes-tu bien, lui? As-tu l'air douette? Y a-tu des belles photos avec ses enfants puis sa femme, sa conjointe? » C'est malheureusement ça, là. Puis ça, c'est triste parce que...
On fait de la politique de surface, dans le fond.
C'est surface. Puis, tu sais, même voter pour le chef. Hey, le chef, là, c'est pas Jésus qui marche sur l'eau, là. Le chef, là, il lead le groupe ou la gang de personnes qui ont décidé d'aller sous ce parti-là parce que, en fait, la grosse majorité de leur façon de voir les choses est représentée par ce parti-là. Mais pour faire un parti, c'est toute la gang ensemble. C'est ça qui est une force. C'est pas juste un individu. Les résidents des circonscriptions auraient bien plus intérêt à prendre le temps de regarder chacun des candidats de chacun des partis qui se présentent et voter pour la personne qui propose les meilleures idées, qui a le plus d'expérience ou qui a le plus de, je sais pas moi, qui a un cheminement particulier qui pourrait aider à son coin, à sa circonscription, que de voter ou de s'aligner uniquement sur comment que le chef va faire pendant 32 ou 75 jours de campagne électorale.
Je sais pas, vous, en Outaouais, ça fonctionne comme ça, nous? En Abitibi, moi, il y a quand même le candidat a une certaine importance. Mais non, vous autres, c'est vraiment Outaouais, ça va
pas. Non. Écoute-nous, c'est zéro.
C'est juste le parti, en fait, là, c'est pas le chef, là, peu importe qui mette. Mais en Abitibi, c'est un peu... On a un peu, j'ai l'impression, en un des endroits où ce que le candidat a quand même une bonne importance. Dans le sens que François Gendron est resté au pouvoir, resté à son siège 42 ans, puis même si le PQ a pris des méchantes dégelées pendant ce temps-là, on était comme, ah, ben François, il est bon, on va continuer à voter François. Puis au fédéral, l'année de la vague orange, on a voté pour Christine Moore, malgré que Martin Lemay était un bon candidat, mais ça faisait un bout qui était là, peut-être un peu l'usure. Mais après, quand il y a eu la vague Trudeau au Québec, Mme Moore est restée parce qu'ils ont voté pour la candidate plutôt que pour le parti. Peut-être qu'en région, ça s'est gardé tradition-là un peu plus. Peut-être que c'est pour ça que les conservateurs, vous avez un peu plus de facilité en région. Parce que justement, vous avez tendance à mettre, puis je dis pas ça pour dénigrer les autres partis, mais j'ai tendance à remarquer que le Bloc puis les conservateurs, vu qu'ils visent beaucoup les régions, ont tendance à aller chercher des poids lourds régionaux ou des personnes avec un bon CV vraiment adapté à la région. Comme je disais tantôt, ouais. Richard Martel, Jean-Maurice mm-hmm. Matt, Mario Provencher.
Très bon point. Très bon
alors
point.
Que les libéraux vont souvent pitcher un gros nom ou juste quelqu'un qui paraît bien justement parce qu'ils vont l'affilier au chef. Ou le NPD, ben ils vont mettre qui qu'ils peuvent parce que tu sais, ils n'ont pas tant de budget que ça. Alors qu'au provincial, on en voit d'autres. Là, mais j'ai souvent l'impression que les partis qui visent les régions ont tendance à mettre les meilleurs candidats et peut-être que c'est justement pour ça les candidats ont plus de succès. Parce que justement, les gens en région ont plus d'affiliation parce que s'ils vont juste avec le parti qui prennent la première personne, ils seront pas représentés parce que, mettons, l'Abitibi, on est quand même couvre beaucoup de surface, mais on a 2 ou 3 députés. 2, je pense, au fédéral, de mémoire, mais là, vous pouvez me dire qu'il y en a 3, je serais pas gêné. Si on prend, disons, 2 libéraux qui suivent ce que Trudeau dit, l'Abitibi fera jamais rien. On s'entend, Trudeau, il s'en fout de l'Abitibi. Mais si on prend quelqu'un, même s'il est dans l'opposition, qui défend la région, puis qui fait son travail, comme Christine Moore le faisait, comme M. Lemire le fait, comme M. Lemire le fait avant, on réussit à aller chercher nos affaires. L'aéroport, la prison, des choses comme ça, on réussit à avancer. Et c'est pareil pour les autres régions. En Outaouais, les gens en Outaouais auraient tout intérêt à voter pour le candidat plutôt que juste voter pour le PLC puis penser que parce que c'est le Parti libéral, ils vont être avantagés.
Puis, je vais donner un exemple. Moi, pourquoi que je vois que le chef a tellement une portée? Tu sais, on prend l'exemple de Richard, là, Richard Martel, Chicoutimi-Lefiard.
Ouais.
Richard, il a gagné une partielle. Puis il l'a gagné à plate couture là, avec 50% et plus, 53, je pense, de mémoire. Mais sauf que manquait perte d'élection là, le 21 octobre. Il est passé, il perdait toute la soirée, puis la raison qu'il a gagné, c'est à base de Bagotville. C'est ça, c'est les militaires de Bagotville qui ont sauvé les fesses.
Pourtant, Richard Martel, gros nom dans la région, puis il est solide, là, Richard Martel. Moi, j'ai été agréablement surpris. Il est bon.
Il est bon, mais il a gagné par une couple de centaines de votes.
C'est quand même incroyable, ça.
C'est puis personne. Moi mon père, là, mon père habite à Chicoutimi. Okay? Puis il est arrivé en Outaouais, il me donnait un coup de main dans ma campagne. Il est arrivé le 3 octobre. Il me dit le 3 octobre, il dit Richard Martel, là, on n'a jamais vu ça de notre vie à Chicoutimi. Il y a des pancartes de terrain. Ça n'existe pas, ça, au Saguenay. En Abitibi, il ne doit pas en avoir plus que ça non plus. Là. Des pancartes de terrain, comme les anglophones font en Ontario. Puis on a vu un peu là, à Moss, en Outaouais. Il dit, Richard Martel, c'est pas compliqué, c'est une maison sur 3 qui a une pancarte de terrain. Jamais vu ça.
Ok, ouais, pareil. Hein.
Puis là, il arrive à la fin, il perd toute la veillée, puis il réussit à coiffer pour gagner à la fin. Là. Mais, tu sais, ça, c'était le 3 octobre quand il est parti. Les effets du débat du 2 octobre ont engendré ça tout de suite après, tu sais.
Non, ça a été catastrophique. Vous autres, ça vous a vraiment achevé ce débat-là. C'est plate en plus parce que M. Scheer, pis ça, on avait parlé tout, puis moi j'entends, je pense, dans
balado. Dans un des premiers
Scheer avait fait un discours à peu près à une semaine des élections. Vraiment le meilleur discours nationaliste qu'un parti fédéral avait fait depuis.
C'était à la prairie, je m'en souviens.
Vous serez maître chez vous, puis tout ça. Il aurait fait ça au début, ça aurait pas été la même game pour tout.
Au début, non, mais, il aurait fait ça.
Ben, je tiens quand même. Mais par contre, Sam, je tiens quand même à rappeler que même le début de campagne de M. Scheer n'était, à mon avis, il n'était pas si mauvais que ça.
Non, puis l'idée
de l'appel de la nation québécoise, quand même, c'était pas.
Ben, c'était fort. Effectivement, je trouve que ça, c'est bien. J'espère que la prochaine élection avec M. McKay va continuer cette ligne-là. Parce que si le Parti conservateur commence à faire un appel à la nation québécoise, ça renforce vraiment.
Ouais.
Ce statut-là dans le Canada.
Ben, et ça renforce l'idée du progressiste derrière aussi.
Ouais. Aussi, oui, ça ramène un peu à Mulroney qui voulait absolument nous inclure dans la Constitution et tout ça. Moi, je pense que c'est une avenue. Mais le problème, c'est qu'on en revient au double discours. Si tu fais appel à la nation québécoise, est-ce que tu mets en rogne le reste du pays? Et là, c'est compliqué. Hein? Il n'y en a pas de facile dans le Canada.
Le reste du pays est capable de faire la part des choses aussi. La nation s'est été reconnue depuis déjà plusieurs années par M. Harper.
2006, je pense.
Donc, puis je peux déjà vous dire, M. McKay, là, c'est dans la même veine qu'il va. Là. Ça, c'est sûr. Il est venu passer à Saint-Jean avec moi en Outaouais. Là. Puis, c'est là qu'il s'en va. Là. C'est sûr et certain, la reconnaissance, le respect de la nation québécoise, le respect de la langue, la culture, puis essayer justement de contribuer à maintenir ça, puis de développer ailleurs au Canada aussi le français. Là, en Ontario, dans l'Ouest, on a vu cette semaine le problème avec l'Université de l'Alberta.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ça, le débat francophone n'est pas juste au Québec, mais puis lui, je peux vous dire, moi, je l'ai connu quand j'étais encore officier dans les forces canadiennes, il était ministre de la Défense. Les derniers mois, là, il est 2 heures par jour à faire du français. Là.
Donc, c'est vraiment amélioré. Il a fait une vidéo avec sa femme, c'est impressionnant. Ouais.
Il s'est mis... il a compris, là, t'as pas le choix. Là. À ce niveau-là, t'as pas le choix. Là. Si tu veux avoir la plus grosse job au Canada en politique, là, t'as pas le choix. Là. Puis faut que
mais c'était un chroniqueur du Toronto Star, je pense qu'il avait dit ça. Il y a un nom pour les candidats pour devenir premier ministre qui ne parle pas français, des losers. Et j'étais comme, ouf! Mais c'est vrai pareil que c'est rendu impossible au Canada, selon moi, de gagner le plus haut poste, le premier ministre, si on parle pas français.
Impossible.
Puis même à ça, parler français, c'est plus assez. Il faut être bon en français. Même Andrew Scheer, ça lui a nuit. Elizabeth May a jamais percé parce que son français était dégueulasse. Puis on le voit. C'est comme si un... C'est comme si un premier ministre ou un candidat libéral, mettons, viendrait du Québec, parce que c'est souvent ça, hein? On se le cachera pas, on a tendance à lui envoyer nos gens, puis après ça, ils font des premiers ministres avec, puis qu'ils parlaient pas anglais, ils gagneraient jamais.
Jamais.
Même chose.
L'inverse est aussi vrai, là. Dans un pays bilingue, ça se fait pas.
Puis pour gagner, là, soyons conscients des choses, si le Parti conservateur veut gagner, ça y prend le Québec. Ça y prend le Québec.
C'est juste Harper qui a fait le tour de force de gagner sans avoir une immense députation au Québec.
15 députés.
C'était
peut-être même 11. En 2011, je pense qu'il y en avait 11.
C'était pas impressionnant.
C'est pas grand-chose, ça.
C'était la première fois qu'un gouvernement majoritaire arrivait sans vraiment un gros support au Québec.
Mais là, c'est à cause que les libéraux étaient détruits aussi. Il y avait, je pense, 36 députés entre le Canada.
C'était pas la même game. Puis le bloc s'était effondré aussi.
Les libéraux, ils auraient dû rester là, c'est mon point de vue, là, mais malheureusement, ils ont eu une vedette de cinéma à leur tête, puis le monde a pensé que...
Est-ce qu'on a le temps de parler du scandale We Charity, genre, ou... Parce que, sérieusement, là, je dois vous donner le crédit que vous l'avez pas lâché, là, mais c'est...
Ah non,
toutes les plaintes au commissaire à l'éthique,
la communication. Mais c'est la communication du Parti conservateur pendant tout ce moment-là.
Pierre Poilievre le mange tout rond. C'est excellent de le voir.
Il est excellent, Poilievre.
Il le mange sur la place publique parce qu'à toutes les fois qu'on voit, c'est pour ça, c'est là qu'on voit la communication, comme tu dis, Jonathan. Toutes les fois qu'on voit le téléjournal ou le TV Nouvelle, puis que ça parle de Trudeau, qui est-ce qu'on voit pendant quasiment 2-3 minutes? Poilievre, tout le temps. Avec ses points, point par point, il détruit à toutes les fois la crédibilité un peu plus à chaque jour le Trudeau.
Non, ben c'est une rhétorique incroyable que Poilievre a. Puis en fait, je crois, ça c'est mon avis personnel, je crois que le prochain chef du Parti conservateur doit continuer de le pousser à l'avant, cet homme-là. Car c'est ça, il est juste bon. Il est bon dans ce qu'il fait. Donc, qu'il continue comme ça, je crois que c'est une bonne chose. Dave, tu me permettras la dernière question, étant donné que le temps chemine. Je sais que c'est une question qui tenait à cœur, puis je suis content que tu l'as appréciée. J'ose la poser maintenant. Tu as une grande expérience politique en Outaouais, ça, on ne se le cachera pas. Ton défi du moment peut-il se résumer à remporter les prochaines élections dans la circonscription de Pontiac?
C'est une bonne question. C'est pas sûr. Puis je vais m'expliquer. Moi, je suis toujours en réflexion actuellement, là, si je me relance là-dedans ou pas. Tantôt, je vous disais, là, en 2019, moi, j'ai fait un an et quelques de pré-campagne. Après ça, il y a eu la campagne d'un mois et quelque chose. Tu sais, Jonathan, là, c'est une grande circonscription, c'est très demandant sur le plan familial. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, j'ai ma conjointe qui a son travail aussi. Donc ça, c'est sûr et certain qu'avant de prendre une décision, je vais faire une consultation avec ma conjointe, voir les réalités des choses. Donc ça, c'est la première partie. Puis ça, je l'avais dit déjà après la dernière campagne.
Oui, effectivement, oui.
Le deuxième point qui est capital, c'est moi, je vois la guerre électorale, mais avec le bon chef. Donc, c'est sûr et certain que si Peter MacKay ne gagne pas, ce qui me surprendrait, mais ça peut arriver, si Peter ne gagne pas, je vais peut-être plus rester sur les lignes de côté, puis voir éventuellement, peut-être que je rassaillerai ça d'une couple d'années. Si Peter gagne, ben là, c'est une autre histoire, parce que moi, je le connais depuis déjà assez longtemps, là, du moment que lui était ministre de la Défense, puis moi, j'étais officier. Je connais le gars, je connais la valeur du gars. C'est une machine, ça, une machine de travail. Le gars est brillant, c'est un excellent politicien, pas un politicien juste pour faire de la politique, mais vraiment pour amener là le Canada ailleurs. En Afghanistan, là, il a fait un travail incroyable. Il a été ministre pendant 7 ans, là, pendant qu'on était en guerre là-bas. Il est allé 20 fois voir les troupes sur le terrain. Tu sais, il s'occupe de son monde, puis il veut le mieux là, pour nous autres. Fait que moi, un bonhomme de main, ça me tente, j'ai le goût d'aller de l'avant avec lui. Pontiac, malheureusement, j'ai pris le temps, moi, d'analyser toutes les boîtes des résultats d'élection Canada. Ça va être extrêmement difficile de gagner cette circonscription-là. Puis on a parlé tout à l'heure en lien, entre autres, avec les sections urbaines tout particulièrement, où ce que on a majorité de la population. Puis cette majorité-là, historiquement, a toujours voté libéral, à l'exception d'une seule fois en 2011, où ce que là, ben, ils ont tourné puis ils ont voté pour le NPD. Donc ça, c'est, tu sais, je prends ça en considération. Ensuite, il y a la considération de voir les appuis aussi avec le membership de notre parti. Et le point principal est que je ne ferme pas la porte à une autre circonscription où ce que je pourrais peut-être avoir, disons, une possibilité un peu plus grande de remporter ou des chances plus véritables de remporter. Puis, vous donner un indice, ben c'est moi, ça serait mon coin natal. Donc,
D'accord.
Ça sera pas celle-là, Richard Martel, fait que vous en reste deux autres.
Ah non, ben effectivement, c'est une réponse qui me surprend, mais dont je suis agréablement satisfait. Écoute, Dave, je te remercie et sincèrement, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Je t'avoue que je te l'ai lancé un peu sans savoir vraiment ce que tu allais répondre. Donc vraiment un gros merci. C'est vraiment apprécié.
Merci à vous pour l'invitation. Continuez votre excellent travail avec justement votre organisme. Puis n'hésitez pas, s'il y a d'autres sujets ou d'autres moments que vous voudriez que je me joigne à vous pour discuter. C'est des sujets qui me passionnent et qui m'intéressent. Puis on fait ça pour des bonnes raisons. On veut améliorer les choses. Donc, moi, des débats d'idées, je suis là.
Super. Ben écoutez, chers auditeurs, j'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux. Allez voir l'agenda.ca pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.